Affranchissement. En Romains 8, nous trouvons exposée d'une manière très claire la signification générale de l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant. Il nous y est dit que la marche d'un croyant est soit selon la chair, soit selon l'Esprit. Au verset 9, il est ajouté
« Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. » Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui.
Nous trouvons donc ici deux choses. Premièrement, seul celui en qui l'Esprit Saint habite n'est pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Deuxièmement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas de lui. En d'autres termes, il n'est pas un chrétien. Ce sont des points de la plus haute importance. Le premier point nous montre que ce n'est pas juste de dire, comme on l'entend souvent, qu'un homme doit être soit un homme naturel, soit un homme spirituel. D'après le Nouveau Testament, il y a une troisième catégorie entre les deux. Lorsque la grâce de Dieu amène un homme naturel, un enfant d'Adam, à se repentir, et implante en lui une vie nouvelle, et qu'il est amené à Dieu en vertu de la rédemption, ce n'est pas encore être spirituel. L'apôtre dit qu'un homme est spirituel lorsque
« Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. »
L'apôtre n'appelle les Corinthiens ni des hommes naturels, 1 Corinthiens 2,14, ni des hommes spirituels, 1 Corinthiens 3, verset 1.
1 Corinthiens 2, verset 14, « Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Et 1 Corinthiens 3, verset 1, « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. »
Ils étaient charnels. 1 Corinthiens 3, verset 3.
Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des querelles, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas à la manière des hommes?
Et en Romains 7, verset 14, l'homme converti qui est sous la loi reconnaît qu'il est charnel.
Romains 7, verset 14. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché.
Diverses circonstances peuvent empêcher qu'un croyant soit spirituel. Chez les Corinthiens, c'était une sagesse charnelle. Mais le cas principal, et le plus fréquent, est, comme l'Épître aux Romains le révèle, que beaucoup de personnes nées de nouveau n'arrivent jamais à réaliser que la chair n'est que mauvaise, ni à croire qu'elle a été totalement jugée dans la mort de Christ. La première partie de cette épître jusqu'au chapitre 5, verset 11, traite de la question de nos péchés, c'est-à-dire de nos actes de péché. Nous en trouvons le résultat au chapitre 5, verset 1 et 2.
« Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. »
Très nombreux sont ceux qui s'arrêtent là. Ils ne sont pour ainsi dire qu'à moitié sauvés. Ils connaissent quelque chose de l'œuvre de Christ, mais ne voient pas qu'ils sont en Christ. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas cette expression, mais lorsqu'ils lisent par exemple Romains 8, verset 1,
« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. »
Ils ne voient rien de plus que ce qui est dit en Romains 4, verset 25,
« Lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. »
C'est-à-dire que leurs péchés ont été ôtés et qu'ils sont justifiés devant Dieu. Mais cela n'est pas toute la signification de Romains 8, verset 1. La différence réside dans le fait que dès le chapitre 5, verset 12, le Saint-Esprit traite d'une nouvelle question, celle de notre vieille nature, de notre chair de péché. Non seulement mes péchés me sont pardonnés et je suis justifié devant Dieu, mais ma vieille nature a été jugée dans la mort de Christ. Ce n'est pas seulement une justification par le sang, mais une justification de vie. Non seulement je crois en Christ et je sais que j'ai le pardon par son sang précieux, mais bien plus, la parole de Dieu me donne le droit de savoir et de dire que je suis mort dans la mort de Christ. Je ne suis pas baptisé pour sa vie ou pour son œuvre, mais pour sa mort. Romains 6, verset 3.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort?
J'étais pécheur, je ne pouvais que pécher, mais cela n'est pas changé par le pardon. Je dois être délivré de cet état, et la seule vraie délivrance d'un état de péché est la mort. Cet affranchissement, je l'ai en Christ.
Car ce qui était impossible à la loi,
opérer que le péché et la mort ne fassent pas loi en moi, c'est-à-dire ne dominent pas sur moi d'une manière ininterrompue.
Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8, verset 3. Tel est l'enseignement du chapitre 5 à partir du verset 11 et du chapitre 6. Il est très difficile pour quelqu'un qui est né de nouveau de recevoir cette vérité. Croire que Dieu a pardonné ses péchés, cela va encore, car c'est quelque chose qui se passe entièrement en dehors de lui. Mais croire que sa vieille nature est morte avec Christ est beaucoup plus difficile, car son expérience journalière est tout autre. À chaque instant, il constate l'existence de sa chair de péché, et tant qu'il n'a pas saisi par la foi cette vérité, il sent la loi du péché et de la mort en lui. Mais dans les choses de Dieu, rien n'est plus important que la simplicité, et il n'y a pas de foi aussi grande que celle qui reçoit sa parole et son autorité comme un petit enfant, même s'il n'en comprend que peu. Si Dieu te dit à toi qui es né de nouveau que tu es mort, le crois-tu ou ne le crois-tu pas? Si quelqu'un ne le croit pas, il cherche à s'améliorer. La nouvelle vie en lui veut vivre selon les pensées de Dieu. Mais il voit en lui le péché, et alors à quel combat terrible cela conduit-il? Nous voyons un tel homme en Romains chapitre 7. Il est né de nouveau, converti, et possède ainsi la vie de Dieu. Car comment un inconverti pourrait-il dire
« Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur » Romains 7, verset 22.
Romains 3, verset 11 dit d'un inconverti:
il n'y a personne qui recherche Dieu.
Mais cet homme avait le sentiment qu'il devait, après avoir reçu le pardon en Christ, se libérer lui-même par l'action intérieure de l'Esprit de Dieu. Il s'y efforça selon la loi, en fit sa ligne de conduite, mais il dut constater que plus il bronchait, moins l'Esprit de Dieu lui aidait. Il le rendait bien plutôt malheureux quant à lui-même. Le Saint-Esprit n'est en effet pas venu du ciel sur la terre pour glorifier la loi, mais pour glorifier le Seigneur. Il ne s'agit pas ici de la vie extérieure, mais de choses plus profondes. L'homme de Romains chapitre 7 peut n'être pas tombé dans des péchés manifestes, mais le péché agissait en lui. Ne connaissons-nous pas tous le combat qui est dépeint en Romains 7? Quelques-uns peut-être avant leur conversion, lorsque le Saint-Esprit opérait dans leur cœur, mais la plupart après leur conversion. Je ne crois pas qu'il existe un croyant qui n'ait pas eu un tel combat, car bien que l'affranchissement de Romains chapitre 8 soit une question de foi, nous devons apprendre à le connaître par expérience. Par elle, nous apprenons que la parole de Dieu dit la vérité lorsqu'elle proclame que notre vieille nature est mauvaise et ne peut pas être améliorée. Par l'expérience aussi, nous apprenons que c'est chose vraie, lorsque la parole de Dieu dit que la loi ne peut pas nous aider, car elle est faible par la chair. Par l'expérience encore, nous sommes pénétrés de la vérité de la parole de Dieu que nous ne pouvons aucunement nous aider nous-mêmes. Et plus nous avons à cœur de servir Dieu, plus profondément aussi nous faisons cette expérience dans notre cœur, de sorte que nous finissons par nous écrier avec désespoir
« Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24.
Nous avons ainsi fait l'expérience que la loi ne donne pas une ligne de conduite pour la vie à quelqu'un qui a une nature pécheresse, mais qu'elle conduit à la mort. Loin d'être une force libératrice, elle ne peut que condamner. C'est pourquoi nous ne nous écrions pas « Qu'est-ce qui me délivrera ?» car nous savons qu'il n'y a rien qui puisse nous aider. Nous crions « Qui me délivrera ?» Et alors Dieu nous dit par sa parole, et heureux sommes-nous si nous l'avons reçu, « Jésus-Christ, notre Seigneur, t'a délivré. » Alors commence dans nos cœurs le chant de joie de Romains chapitre 8.
« Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. »
Quelle différence avec Romains chapitre 7. C'est se tromper soi-même et manquer de discernement et de connaissance de la parole de Dieu que de prétendre que l'homme peut se réjouir de l'affranchissement de Romains chapitre 8, tout en étant dans le combat entre le bien et le mal présenté à la fin du chapitre 7. Peut-on se trouver en même temps en esclavage et en liberté? Quelqu'un peut-il dire « Je suis charnel, vendu au péché » et « Le mal que je ne veux pas, je le fais » et se réjouir en même temps de ce que
« La loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. »
Est-ce qu'un état dans lequel un croyant doit dire qu'il est captif de la loi du péché qui existe dans ses membres, Romains 7, verset 23, est l'état normal d'un croyant délivré par le Seigneur Jésus?
Romains 7, verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. »
Je ne dis pas que ce n'est pas l'état habituel de beaucoup, mais je demande si c'est selon la pensée de Dieu. En Romains chapitre 8 nous est présentée la position normale du croyant selon la pensée de Dieu. Il a reconnu ses péchés et cru qu'ils sont pardonnés en vertu du sang précieux de notre Sauveur. Il a vu la corruption de la chair et cru que la chair a été jugée en Christ sur la croix. Et après avoir cru, il a été scellé du Saint-Esprit, Éphésiens 1, verset 13.
« En qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit de la promesse. »
Il sait qu'il est mort en Christ et que maintenant il est aussi en Christ et qu'ainsi il n'y a aucune condamnation pour lui. Il sait que la puissance du péché sur lui a été ôtée, car sa vieille nature a été jugée en Christ. Il a une vie nouvelle qui ne peut pas pécher, 1 Jean 3, verset 9, et une personne divine, le Saint-Esprit, habite en lui.
1 Jean 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. »
Elle est la puissance en lui qui opère la vie nouvelle et le rend capable de vivre en accord avec elle. Il est dans l'esprit, un homme spirituel qui peut marcher selon l'esprit. Il est sorti de la famille du premier Adam, qui est dans la position et dans l'état de l'homme déchu devant Dieu, et il est entré dans la famille de Dieu, dont le second Adam, Jésus-Christ, est la tête. Et non seulement cela, celui qui sur la terre avait été oint du Saint-Esprit et qui marchait par l'Esprit, nous a maintenant donné de son Esprit. 1 Jean 4, verset 13.
Par ceci nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son Esprit.
Christ ressuscité est le chef de la famille de Dieu, et la position de la famille résulte de la mort et de la résurrection de Christ. Si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il est de lui. Romains 8, verset 9.
Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui.
Et ce n'est pas encore tout. Nous connaissons bien cet affranchissement, et nous en jouissons dans notre âme, mais en pratique notre corps n'y a encore aucune part. Cependant, cela viendra aussi.
Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son Esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11.
C'est la pleine délivrance de l'âme et du corps et la réponse parfaite au cri de désespoir.
Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7, verset 24.
Tandis que nous sommes encore sur la terre, le Saint-Esprit témoigne avec notre esprit, la vie nouvelle en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Il exprime les sentiments que nous avons comme hommes nouveaux pendant que nous cheminons dans la création assujettie à la malédiction.
L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, verset 26.
Tel est l'affranchissement qui est dans le Christ Jésus. L'Écriture nous dit que nous le recevons par le Saint-Esprit et que nous ne pouvons en jouir que par lui. Nous ne recevons pas la moindre bénédiction sans lui. Il agit dans le cœur du pécheur pour l'amener à la repentance. Par lui, le Fils de Dieu donne la vie à un pécheur mort. Le Saint-Esprit opère dans le cœur de celui qui est converti et habite en celui qui croit, comme une personne à côté de la nouvelle nature, pour lui faire connaître toute la valeur des bénédictions de Dieu et être en lui la puissance pour réaliser tout cela. Oui, le Saint-Esprit donne même son nom pour désigner la position qui nous est faite comme affranchis, comme chrétiens, en vertu de la mort et de la résurrection de Christ. Nous qui avons part à ces choses, nous sommes dans l'Esprit, et l'Esprit de Dieu habite en nous.